réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec France Culture et Un autre jour est possible. Nous sommes le mercredi 1er juin. Pour préparer le week-end Imagine, le week-end que France Culture et le Centre Pompidou organisent ce week-end, les 4 et 5 juin, depuis lundi, nous parlons de la culture, de la place de la culture, de pourquoi la culture, avec Jérôme Clément, dans un instant, le troisième épisode de notre série « La culture, une affaire cruciale ». Et puis en deuxième partie, je serai avec le réalisateur Rachid Djaïdani. Son dernier film, son deuxième long-métrage, « Tour de France » a été présenté la semaine dernière à Cannes, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. C'est un road movie qui met en scène deux personnages, deux Français, un jeune habitant dans les quartiers dits défavorisés, d'origine maghrébine, et puis l'autre, habitant dans ces mêmes quartiers, est un vieux retraité, un maçon, et il est joué par Gérard Depardieu. Donc on voit très bien cette dualité entre le jeune qui est dans une colère sociale et qui risque de sombrer dans les flammes de la colère tout court, et puis Gérard Depardieu qui joue le rôle de ce maçon et qui lui est plutôt tenté par les flammes du Front National. Rachid Djaïdani sera avec nous aux alentours de 6h15 pour nous parler de son rapport à la culture et de ce que peut la culture, puisque c'est aussi l'objet de son film intitulé « Tour de France ». Mais pour commencer, notre tête chercheuse, Jérôme Clément, directeur général du CNC et de la Fondation Alliance Française, ex-président d'Arte, qui sort chez Grasset « L'urgence culturelle ». La culture, une affaire cruciale avec Jérôme Clément qui est avec nous depuis lundi. Aujourd'hui, troisième épisode. Bonjour Jérôme Clément.
Bonjour.
La culture populaire contre la culture élitiste. Alors, pour aller très vite, la culture pour tous, est-ce encore de la culture ?
Ah ben, il faut que ça le soit. Il faut que ça le soit. C'est... On ne fait pas... On fait pas de la culture, enfin on peut en faire pour son propre compte, etc. Mais quand on monte un spectacle, quand on joue de la musique, c'est pour être entendu. Et de ce point de vue-là, le numérique offre des perspectives formidables, quoi. Notamment pour la musique ou pour la diffusion des émissions. Notre émission sera diffusée en podcast et entendue par beaucoup d'auditeurs grâce à ça. Donc je crois que ça c'est formidable. Donc on cherche bien sûr à faire de la culture pour tous. Le problème est qu'on n'y arrive pas toujours. Et ça, comment peut-on faire pour ça ? Évidemment, il y a un débat qui dit mais la culture élitiste, c'est une culture pour initiés. Personne ne comprend rien, que ce soit dans l'art contemporain. Les artistes ne sont pas toujours compris de leur vivant. Alors, on voit des gribouillis sur une feuille blanche, on dit ça c'est du génie. Les béotiens disent ça m'intéresse pas du tout. Et puis d'autres vont crier au génie. Donc on a des différences de perception. On peut avoir des moments où on ne sait pas très bien au fond si c'est l'expression d'une époque ou si c'est un génie ou si c'est voilà. Donc c'est très difficile de démêler ça, mais il faut aussi faire de la culture populaire au sens où d'emblée on sait qu'on va s'adresser au plus grand nombre avec des chansons, avec des spectacles grand public. Moi j'ai eu ce problème-là sur Arte. Hein. Franchement c'était le problème qu'on avait sur Arte, c'était on voulait garder une exigence de qualité, c'est-à-dire faire des choses qui soient quand même toujours de qualité, mais en même temps on rêvait qu'elles soient vues par le plus grand nombre. Et on savait que c'était pas toujours possible. Alors, on a eu, par exemple, moi j'avais, je me souviens toujours, ça m'amusait chaque année, Télérama posait la question « Quelle est la télévision que vous préférez ?» Pendant plusieurs années, c'était Arte. Bon, alors on était très contents. Et puis ensuite, on regardait « Quelle est la télévision que vous regardez ?» C'était TF1. Donc on voit qu'il y a ce décalage aussi un peu schizophrène dans l'esprit des gens où ils se voudraient cultiver et puis au fond, ils préfèrent les choses plus faciles et d'accès plus facile. Donc il n'y a pas de recette miracle entre la culture populaire et la culture... pour savoir ce qui est d'un côté et de l'autre. J'aime pas trop d'ailleurs quand on parle du cinéma d'auteur, parce que finalement tout cinéma peut être vu par le plus grand nombre dès l'instant qu'il touche à des problèmes fondamentaux qui sont perçus et bien exprimés par l'être humain. Donc je crois que c'est un faux débat. Moi je pense que on voit bien ce qu'on veut dire par là, mais je pense qu'il faut viser toujours la qualité, avoir toujours la plus grande exigence. Et essayer de donner des clés pour que le public, même le moins éduqué, puisse y avoir accès. Ça peut être le cas avec la musique, par exemple. Simplement parce que le contact est très direct, que ce soit de la chanson, que ce soit de la musique de toute nature. On peut faire venir les gens à la musique peut-être assez facilement. Le théâtre, c'est parfois plus compliqué, mais ça peut être aussi très facile. Donc... Et pour les livres, je vois, avec mes petits-enfants, je cherche pas à leur faire lire des livres difficiles, mais simplement déjà qu'ils lisent. Et puis ensuite, il y aura une progression. Donc il faut faire pareil avec la culture. Il faut que ce soit un contact qui permette de progresser, de faire ses choix, d'aller dans une direction, d'aller dans une autre. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jugement à porter. Mais il faut demander aux artistes de faire des œuvres qui sont celles qu'ils veulent faire, mais... Qui peuvent rencontrer leur public.
En leur demandant quoi, au juste, Jérôme Clément? En intervenant dans leur processus créatif, artistique?
Non.
En exigeant un minimum de rentrée, ou en termes de tickets, s'il s'agit d'un film ou d'exemplaires vendus en ce qui concerne un livre? C'est quoi l'idée? Comment peut-on régler cette équation?
Bah, elle est très difficile, hein. Franchement, là, vous me posez une question très, très, très difficile, parce que il faut donner la liberté aux artistes, quoi. Il faut leur laisser la liberté de créer tel qu'ils ont envie de faire.
Et en même temps, vous dites ça, et en même temps, vous y croyez pas vraiment, Jérôme Clément. Bah, généralement, quand quelqu'un a fait deux films qui n'ont pas marché au box-office, oui, même s'il revient avec un troisième excellent projet, il a nettement et honnêtement moins de chances d'avoir de l'argent pour le produire.
Oui, c'est vrai, c'est la règle générale, mais enfin, je sais que quand j'en étais président, de temps en temps, je voyais des projets qui étaient bien et je discutais quand même. Ça passait. Enfin, là, la télévision ou le cinéma, c'est autre chose. On peut discuter sur un scénario, sur un casting, on peut discuter sur un réalisateur et lui dire, écoute, franchement, là, on n'y comprend rien à ce que t'écris. Ta scène, c'est le rôle du producteur. Hein. On ne sait pas très bien où ça va. Il ne faut pas intervenir trop, mais on peut intervenir un peu. Dans un dialogue ouvert et respectueux. C'est ça aussi qui est important, c'est que le dialogue soit ouvert et respectueux. Mais quand il s'agit d'un compositeur qui fait de la musique dans sa chambre, on ne peut pas intervenir sur ce qu'il fait, quoi. C'est quand même très difficile. Ou sur un peintre qui jette de la peinture, du dessin, c'est très difficile d'intervenir. Je ne pense pas qu'on puisse, je ne pense pas qu'on doive d'ailleurs. Et de quel droit? Qui suis-je pour m'autoriser à intervenir dans le geste artistique? Moi, je m'en sens pas trop la capacité. Alors après, on peut, quand on connaît très bien les gens, leur demander d'expliquer aussi. Ou il y a des artistes dont oui, c'est très difficile votre question, parce que Van Gogh a été rejeté de son époque par tout le monde et personne ne croyait à sa peinture. Il est mort pauvre, il vendait pas ses toiles.
Oh, très bon exemple. Est-ce que aujourd'hui un Van Gogh peut exister?
Oui, je pense que oui, bien sûr, oui. Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bien sûr, de l'instant.
Bah, parce que je pense qu'il y a toujours des créateurs qui inventent des choses ou qui écrivent des choses formidables, et que le public n'est pas forcément au rendez-vous à ce moment-là, parce que c'est le problème de l'avant-garde, c'est le problème de savoir jusqu'où un artiste est compris dans son époque. Le nombre, ça a été le cas des impressionnistes, enfin il y a d'innombrables exemples. Le cas de Van Gogh est peut-être le plus typique, parce que personne n'aimait sa peinture, ne la comprenait, il est mort très pauvre, et aujourd'hui c'est un des artistes qui a la cote la plus importante. Donc c'est vrai de bout. C'est pas le cas de tous, hein, parce que Rodin, à la même époque, a été célèbre de son vivant et adulé de son vivant. Et on peut dire des écrivains que ça peut être pareil, quoi. Pour un Victor Hugo reconnu et apprécié, voilà un grand homme qui alliait l'élite et le populaire, quoi, qui était, voilà. Mais c'est très rare. Il y en a pour lequel c'est plus difficile. La poésie de Mallarmé, elle est très difficile. Mais on considère comme un très grand écrivain. Personne n'y comprenait rien quand il écrivait. Donc, ce sont pas des problèmes qu'on peut résoudre facilement. Quand on a la responsabilité d'une politique ou quand on dirige une chaîne culturelle, comme ça a été mon cas, on peut essayer, par le dialogue, de dire, franchement, là, ça va pas. On voit pas où tu veux aller. Et c'est un peu compliqué. Et puis, il y a des réalisateurs qui résistent et qui disent, ben non, je suis désolé, mais non, moi, je ne peux pas faire autrement.
Même si c'est un peu délicat. Hein. C'est oui. ça. On est en train de parler à la radio ce matin.
Oui.
On sait très bien que si, à la place de notre entretien, on avait mis de la musique populaire, il y aurait eu plus d'auditeurs. Et pourtant, c'est une mission quand même. Oui, alors comment on fait? Est-ce que c'est le rôle?
Moi, je crois que c'est un compromis à trouver qui est pas facile entre l'exigence de qualité et le fait qu'on doit avoir du public. Et quand on est dans un média de grand public, comme la radio ou comme l'exemple que vous citez, vous devez à la fois, je pense, faire des émissions de niveau qui satisfont peut-être un nombre d'auditeurs moins important, mais qui, malgré tout, apportent quelque chose et puis permet d'introduire un débat de fond. Et ça, c'est il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Moi, j'ai toujours veillé à ce que il y ait des émissions dont certaines peuvent apparaître comme difficiles. Et de temps en temps, il faut faire des concessions parce qu'on sait qu'on touchera plus de monde avec des spectacles ou des programmes plus faciles. Il faut faire les deux.
Hier, Jérôme Clément, en parlant des politiques culturelles depuis Malraux jusqu'à aujourd'hui, tout en schématisant, vous avez dit que une politique culturelle de droite, c'était beaucoup plus la préservation du patrimoine, alors qu'une politique culturelle de gauche, c'était l'innovation. Aujourd'hui, on sort de ce bipartisme, on se dirige vers un tripartisme avec un parti qui est populiste, entre guillemets, mais enfin un parti qui dit, moi j'ai envie de défendre la culture populaire, si souvent méprisée par les uns et par les autres.
Oui, le Front National, mais bon, c'est une caricature, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent effectivement l'art contemporain, la politique des fracs, ça revient dans tous les propos, que l'État dépense de l'argent pour acheter des artistes contemporains, ça leur paraît de l'argent mal placé. Ils veulent des spectacles qui sont très très liés à la vie locale et qui font pas appel forcément à des artistes en dehors du territoire, etc. Bon, bref, il y a tout ça. Ça, pour moi, c'est une politique vraiment condamnable parce que elle ne respecte pas l'autre, quoi. Elle n'éveille pas la conscience ou l'intérêt artistique, et en plus elle exclut, quoi. C'est une politique qui exclut et qui ne cherche pas à ouvrir les yeux des spectateurs ou des citoyens vers des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors ils sont pas obligés d'aimer ou de ne pas aimer, mais il faut leur donner la possibilité d'aimer.
Et mais au-delà de cette critique,
la politique du Front National, oui. elle est excluante, quoi, comme tout ce qui, comme tout.
Très bien, mais au-delà de cette constatation, est-ce que il n'est pas juste de dire que peut-être qu'il y a un certain mépris des élites françaises vis-à-vis des cultures populaires, folkloriques, traditionnelles?
Oui, il y a toujours eu cette différence d'appréciation entre l'un et l'autre, mais je crois il faut vivre avec, quoi. Il y a toujours dans une société, dans une population, des gens qui sont plus d'avant-garde, comme on disait autrefois, et d'autres qui sont plus dans le mainstream, pour reprendre l'expression de Frédéric Martel, quoi, qui sont dans le courant dominant. C'est plus facile, évidemment, d'aller voir un spectacle de chansons populaires que d'aller voir un artiste auquel on comprend rien. Mais il faut accepter les deux, quoi. Moi, je pense qu'il faut pas du tout être là-dessus sectaire ou contradictoire. Il y a la place dans une société pour des artistes qui font un travail qui est peut-être difficile d'accès, et puis il faut aussi des artistes ou des maisons de la culture qui offrent toute une possibilité de gamme. Moi, je crois que les citoyens, les spectateurs s'y retrouvent très bien eux-mêmes. Quand on voit quand même l'affluence qu'il y a dans les expositions, alors certaines sont plus appréciées que d'autres, mais bon, peu importe, sur le lot, chacun peut y trouver son compte. Donc la responsabilité, c'est d'offrir toutes ces possibilités à tous les publics et d'éduquer les enfants pour qu'ils aillent dans cette direction. Et je crois que toutes les politiques qui visent à refuser ça, elles sont mauvaises. Alors là, il faut bien reconnaître, tout à l'heure on avait la distinction entre la droite et la gauche. Moi, je crois qu'il ne faut pas être manichéen dans ce domaine. Pour ça, quand on voit ce que font les élus, il y a des élus de droite qui font très bien leur boulot, des élus de gauche qui font mal le leur. Spontanément, j'aurais tendance à dire que c'est à la gauche d'ouvrir plus, parce qu'elle est plus ouverte, normalement. Mais voilà, il y a des exceptions, et puis c'est vrai que les cartes se brouillent un peu aujourd'hui.
Un week-end consacré à l'enjeu de la culture dans la France d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde d'aujourd'hui. C'est un week-end préparé par le Centre Pompidou et France Culture ce samedi 4 et ce dimanche 5 juin. Si vous êtes parisien ou de passage à Paris, venez nous retrouver. Le week-end de la création et des idées, imagine, avec des journées dédiées donc à la création, aux rencontres avec l'art, aux échanges et aux débats autour de la place de la culture. Et à cet effet, toute cette semaine, Jérôme Clément est avec nous. Jérôme Clément, je rappelle le titre de votre dernier essai paru chez Grasset, écrit à la première personne, L'urgence culturelle. Dans un instant, on va recevoir, pour continuer le débat, justement Jérôme Clément, on va recevoir Rachid Djaidani, qui a réalisé Tour de France, qui a été présenté la semaine dernière à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. C'est l'histoire d'un road movie qui réunit un jeune français d'origine maghrébine, en tout cas qui a vécu dans une cité, qui est un rappeur, et qui va faire le Tour de France avec un autre français, plus vieux, puisqu'il est joué par Gérard Depardieu, un maçon qui vit dans une cité et qui est lui-même victime, en quelque sorte, de discrimination, parce que c'est le seul blanc de la cité. Ils vont faire le Tour de France, et on voit bien dans ce film que la culture, les enjeux culturels sont très très importants pour la cohésion du pays. C'est pas à vous que je vais le dire, Jérôme Clément, parce que je suppose que pour vous, si vous avez sorti ce livre, L'urgence culturelle, c'est parce qu'il y a une échéance présidentielle l'année prochaine, non ?
Oui, bah oui, je pense. Moi, je voudrais que ça soit un des enjeux, un des sujets de la campagne présidentielle, évidemment.
Merci Jérôme Clément, et à demain. Demain, on parlera de la culture européenne. Est-ce qu'elle existe vraiment ? À demain.
À demain. Bonne journée.
France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel.
Bonjour Rachid Djaidani.
Bonjour cher Toufik, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même? C'est plutôt à moi de vous poser cette question, vous savez. Hein.
Ben, ça va plutôt bien.
Un deuxième long métrage, donc Tour de France, que ceux qui ne sont pas allés à Cannes peuvent revoir à Paris, au Forum des images, comme pour le premier film, Rengaine, un premier film qui parle de la France d'aujourd'hui, puisque c'est un road movie, ça on peut le dire, avec deux personnages, comme deux exclus de la société française d'aujourd'hui, un jeune d'origine maghrébine, rappeur, enfin, en tout cas, issu des quartiers populaires, et puis un autre exclu, tout aussi ancré dans cette réalité française que sont les quartiers populaires. Mais ce personnage est incarné par Gérard Depardieu, et c'est un peu le prototype du français qui peut avoir suffisamment de rancune pour être sympathisant, sinon militant du Front National. Et vous avez eu l'idée, Rachid Djaidani, de leur faire faire le Tour de France. Pourquoi ?
Ben pourquoi ? Parce que tous les deux, dans leur trajectoire, avaient eu, comment dirais-je, une ambition personnelle. Ça veut dire que l'un, voilà, c'était de se rendre à Marseille pour faire un concert, tandis que tonton, Serge, pour qui le connaît Gérard Depardieu, Serge est un amoureux de la peinture marine, et il retrace la trajectoire des peintures peintes par Joseph Vernet. En l'occurrence, ces deux âmes blessées. L'un farouque, vivant dans une cité délaissée, ne peut avoir comme écho son rap contre la société. Et à l'inverse, dans le nord de la France, on trouve Serge, un maçon qui a perdu sa femme, dont le fils s'est converti à l'islam et qui effectivement a en lui une sorte de rancœur, de rancune, rancune vis-à-vis certainement de la France qui l'a oublié, et de rancœur par rapport à cette jeunesse qui au quotidien le malmène en bas de chez lui, quoi. Donc leur psychologie, elle est que c'est ces deux âmes blessées qui vont être amenées à se rencontrer pour au fur et à mesure se réconcilier et se rendre compte que c'est ensemble qu'ils se ressemblent et que tout reste complexe en réalité, quoi. Tout reste complexe. Rien n'est simple dans leur trajectoire, rien n'est simple dans leur histoire, mais ils vont peu à peu se rencontrer, mais avec des mots pleins de brutalité, quoi. Serge se trouve être quelqu'un effectivement d'assez radical, alors que Farouk tout autant. Et de cette étincelle va naître peu à peu un éclat qui, au fur et à mesure, va faire que ils vont se regarder et se rencontrer et se rendre compte même qu'ils sont pas si différents, parce qu'habités par la même souffrance, celle des exclus.
Et celle de la discrimination, un des moments forts du film d'ailleurs, Rachid Djaïdani, c'est quand ce maçon, incarné par Gérard Depardieu, rappelle que lui, en tant que blanc, il est discriminé dans son quartier, dans sa cité.
Ouais, c'est un moment, c'est une punchline, c'est une réplique du film qui a été écrite et qui a plusieurs portées pour moi. Mais la première, c'est de complexifier aussi le regard, qu'effectivement, on peut très bien aujourd'hui vivre dans une cité, être français aux yeux bleus, à la peau pâle et blanche, et se sentir aussi exclu et discriminé qu'un jeune français d'origine maghrébine, et que tout à coup, ce sont deux pauvres qui veulent revendiquer leur part de discrimination et qui veulent porter au plus haut leur couronne. Donc d'un côté, tu as le jeune gamin qui dit « c'est moi qui suis le plus discriminé, donc pour cela, je vais hurler ma haine vis-à-vis de la société ». Et puis tout à coup, tu as Serge qui lui dit « non, dans ce pays, c'est moi la discrimination ». Et c'est lui qui l'a subi dans sa cité. Et qui le dit avec un écho en même temps qui est plein de ressenti, mais en même temps qui en tout cas, quand il le dit, on sent que c'est l'écho d'une blessure vraiment traversée, puisqu'on voit bien que effectivement Serge, dans sa cité, est malmené par des petites racailles.
Rachid Djaïdani, quand vous avez eu cette idée de faire la rencontre entre ces deux personnages avant de les lancer sur les routes françaises, est-ce que c'était ça votre idée de départ, de dire que il ne faut pas caricaturer le jeune français d'origine immigrée qui vit dans les quartiers populaires, et de la même manière, ne pas caricaturer celui qui vote pour le Front National ou celui qui est militant du Front National?
Bien sûr, parce que j'ai pas envie d'être... Moi-même, je suis un être complexe. Et malheureusement, dans les codes-barres, on a tendance à me ramener toujours la même étiquette, et qui est le petit rebeu de Tessie, quoi. En gros, quoi, tu vois, c'est malheureusement toujours le même schéma d'être suivi dans le magasin, d'être contrôlé, forcément, pas forcément par un policier, mais par un vigile. Enfin, tu vois, qui me ressemble et qui a le même parcours que moi. C'est-à-dire que c'est complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que j'ai voulu montrer dans le film, c'est que tout ça, au final, ces retranchements pour les uns et les autres, pour Farouk d'un côté, pour Serge de l'autre, c'est simplement un cri pour moi de dire on est là, on existe, et plus vous aurez tendance à nous enfoncer, et plus on ira chercher les flammes, soit les flammes de la haine, soit les flammes du FN, pour l'un ou pour l'autre. Mais les deux, en fin de compte, dans leur trajectoire, il n'y a que du désespoir. Parce qu'ils ne sont jamais regardés. C'est pour ça que d'ailleurs que dans le film, c'est un binôme. Il n'y a pas de triangulaire qui tout à coup a la bonne conscience de dire « Ouais, mais c'est pas bien de dire ça. » Ou « On ne devrait pas penser comme ça. » Ou « Il a dit ça, mais vous savez, en fin de compte, non. » Ils se disent les choses brutalement, de la même manière que quand j'étais maçon et que je travaillais avec des ouvriers et que parfois ils avaient des mots déplacés vis-à-vis de moi, ben arrivé un moment, au premier abord, on peut penser qu'ils sont racistes ou qu'ils étaient racistes, mais derrière, en fin de compte, c'était leur façon d'être, leur façon de commencer à m'aborder, me dompter, m'envisager, et qui, au final, lorsque j'allais leur chercher leur bouteille de vin et que je leur ramenais leur monnaie et qu'il y avait toutes les pièces dedans, ils commençaient à me dire « tu bois un coup, tu bois pas de coup, mais en tout cas, franchement, tu fais du bon travail ». C'est bien. Comment tu t'appelles déjà, Rachid? Mais t'es où? T'es d'Algérie? Du Maroc? Je connais bien le Maroc. C'est super cool, le Maroc. Je passe mes vacances là-bas avec ma femme. Et en fin de compte, tu te rends compte que le mec n'était pas raciste, quoi. Mais simplement, arrive vraiment la peur de l'autre. Et puis en même temps, le fait aussi d'en avoir marre dans cette société, d'être un exclu. D'être un exclu quand t'es malheureusement français d'origine maghrébine, t'es né avec. Mais t'imagines être un exclu quand t'es français et que on te donne aucun écho. De la même manière que, comme Farouk le dit si bien, à un moment à tonton, vous savez pourquoi vous détestez autant les bougnoules que ça? C'est parce qu'ils vous ressemblent, c'est parce que vous leur ressemblez. C'est qu'en fin de compte...
Vous leur ressemblez dans la misère, dans la précarité.
Dans la misère, dans la précarité et dans la manière... dans laquelle les politiques aussi vous excluent.
Rachid Jaidani, terminons par la culture. Si je vous posais la question, de quelle culture êtes-vous ?
Je suis sur un chemin de recherche perpétuelle. Je ne me connais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a une graine qui est plantée. Je ne sais pas le fruit qu'elle va donner, mais je cherche à jour après jour à me nourrir d'une culture du regard de l'autre. Je pense que ma culture, c'est le regard de l'autre.
Est-ce que vous considérez, par exemple, comme arabe ?
Non. Comme français, non plus. Comme être humain, parfois. Je sais pas, franchement, je sais pas qui je suis, je sais pas. Franchement, je suis égaré, quoi. J'ai aucune certitude. Je suis père de famille. J'ai une petite fille. Et je tente chaque jour de lui apporter au maximum un regard universel. Lui expliquer ce qu'est une église, ce qu'est une synagogue, ce qu'est une mosquée, ce qu'est un français, un arabe, un malien. Essayer de lui expliquer que le monde est beau et expliquer qu'il faut faire et continuer à faire des erreurs. Parce que c'est de là qu'on apprend le mieux, quoi.
Et si elle vous dit à vous, Rachid Jaidani, et vous, papa, et toi, papa, tu es quoi ?
Alors là, je lui dis je suis musulman. Je lui dis je suis musulman parce que c'est important qu'elle l'entende, qu'elle soit fière de ce mot dans la bouche de son père. Je suis musulman, comme d'autres diraient, je suis un musulman de la langue parce que je ne prie pas. Mais je sais qu'il y a une chose auquel je ne pourrais pas... faire d'esquive, c'est la mort. Et je sais que ce sont des mains musulmanes qui me mettront en terre. C'est en ça où je lui dis que je suis musulman.
Et en même temps, vous êtes un cinéaste, vous êtes un artiste français.
C'est tellement beau, quoi. Et même là, d'être français et de représenter la France à travers la quinzaine des réalisateurs, et à travers le regard des personnes qui m'ont sélectionné, Edouard Von Trop et toute son équipe à qui je tire ma révérence et tout, c'est une telle fierté de représenter la France à travers le monde en étant un Rachid.